Nous allons entendre deux textes qu'on appelle habituellement les béatitudes. L'un est extrait de l'évangile selon Matthieu et l'autre de l'évangile selon Luc. Ce matin, nous avons comparé ces deux textes et on parle de béatitude parce que dans l'évangile selon Matthieu, chaque verset commence par l'adjectif heureux, makarios en grec. Dans l'évangile selon Luc, vous entendrez que c'est un peu différent. La première partie de ces versets commence par l'adjectif heureux. Mais ensuite, il y a toute une série de reprises avec l'adjectif malheureux. Il y a d'autres différences importantes entre ces deux textes. Dans l'évangile de Matthieu, la scène se passe sur une montagne, où Jésus est monté pour être tranquille avec ses disciples, pendant que la foule reste en bas. Donc, les paroles qu'il prononce sont destinées uniquement à ses disciples. Dans l'évangile selon Luc, la scène se passe dans la plaine. Jésus est avec trois groupes de personnes à côté de lui. Il y a les disciples, les plus proches, qu'on appelle aussi les apôtres. Un peu plus loin, un grand nombre de disciples, c'est-à-dire des gens qui veulent suivre son enseignement. Et encore plus loin, on y trouve une foule venue d'un peu partout, pas seulement des Judéens, mais aussi des Tyrs et des Sidons.
Donc, ces étrangers viennent de Tyr et Sidon. Ces deux villes sont sur la côte au nord d'Israël. Aujourd'hui, elles sont au Liban. À l'époque de Jésus, les personnes qui vivent là-bas ne sont pas juives. Donc, ces étrangers sont considérés comme des païens. Et pourtant, Luc nous dit qu'ils sont tous venus écouter Jésus. Apôtres, disciples juifs, étrangers païens. C'est peut-être une image qui annonce l'Église universelle, ouverte à tous les humains. Nous nous sommes aussi demandé pourquoi ces deux textes étaient différents. Est-ce que cela signifie qu'une des deux histoires n'est pas vraie? Ou les deux? Nous avons aussi réfléchi à l'image que ces deux textes nous donnent de Jésus. De qui est-ce qu'il parle, au fond, dans ces textes? À qui est-ce qu'il parle? Ces textes permettent de se poser beaucoup de questions, car ils nous disent le contraire de ce qu'on a l'habitude de penser. Donc, si on s'intéresse à Jésus, à ce qu'il a dit, on doit réfléchir à ces paroles qui annoncent le bonheur et le malheur, en essayant de comprendre ce qu'elles veulent dire pour nous aujourd'hui.
Et donc, il est bien nécessaire de prier avant d'entendre ces textes bibliques. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Donne-toi à la parole et tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu.
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 12. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis, il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Voilà. Et dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient perturbés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque le monde parle en bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes de mensonges.
Je vous propose de vous lever pour chanter avec moi les quatre premières strophes du psaume 107. Alors vous vous doutez bien que je n'ai pas de réponse à toutes ces questions que les jeunes nous ont posées à propos de ces deux textes. J'ai d'autres questions, des pistes de réflexion peut-être, à propos de ces deux béatitudes bien différentes, comme on l'a entendu, ne serait-ce que justement parce que celle de l'évangile de Luc se termine par des mots de colère, une condamnation qui s'oppose point par point à la consolation des premiers versets. Quel malheur pour vous les riches, vous qui êtes rassasiés, vous qui riez maintenant, vous qui êtes bien vus et qui voulez le rester. Quand j'ai commencé à réfléchir à ces deux textes, en les comparant justement, dans un premier temps, je me suis dit, bon, le Jésus des béatitudes de Matthieu, ça va. Il console sans condition. Je reviendrai sur ces consolations. Mais le Jésus des béatitudes de Luc, et on l'a entendu également au catéchisme tout à l'heure, il a un peu l'air d'un fou qui éructe, qui s'énerve. On pourrait presque penser que les premières paroles du Jésus des béatitudes de Luc, « Heureux êtes-vous », les quatre premiers versets, ils sont surtout là pour lui permettre ensuite d'introduire les quatre autres « Malheureux êtes-vous », pour lui permettre de se laisser aller à la colère. Et cette colère, on pourrait avoir du mal à la comprendre. On a du mal à la comprendre. Oui, on a du mal à la comprendre, mais voilà. Le matin du jour où j'ai commencé à travailler sur ces textes, pas en même temps, parce que j'écoute pas la radio en même temps que je travaille sur les textes, mais j'ai écouté la radio le matin, France Inter. Et ce matin-là, le 14 février, comme ça vous aurez toutes les informations, même si je ne donne pas de nom. Ce matin-là, un secrétaire d'État était invité à une émission matinale de France Inter pour parler des contenus haineux véhiculés par les réseaux sociaux et de la manière de combattre ce fléau. Comment combattre ce fléau ? Alors, comme d'habitude dans ces émissions, les journalistes qui veulent toujours donner l'impression de tout maîtriser n'arrêtait pas de lui couper la parole. Et en plus, pour beaucoup de raisons qui mériteraient réflexion, mais ce n'est pas le lieu, donc je ne le ferai pas, mais on pouvait quand même avoir l'impression que ces journalistes lui parlaient avec une certaine condescendance. Mais notre secrétaire d'État, en charge du numérique, tenait bien le coup. Alors on peut se demander pourquoi quelqu'un qui consacre son énergie à servir son pays doit en plus être soumis à une telle pression. Pourquoi il est obligé de tenir le coup à la radio ? Mais en tout cas, il le faisait. Il se débrouillait, il supportait cette pression, et il se débrouillait même plutôt bien. Jusqu'au moment, le malheureux, jusqu'au moment où il a dit le mot interdit. Non, non, pas un gros mot, je vous rassure. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche des gros mots. Il a parlé de faire évoluer les mentalités et de remplacer la haine par l'amour. Erreur fatale, stupeur de l'intervieweuse. L'amour, ça fait pas un peu, je cite, ça fait pas un peu bisounours ? Et le malheureux, pris dans le conformisme des mentalités alors qu'il avait dit une vérité, une si belle vérité, eh bien le conformisme des mentalités est si fort qu'au lieu de lui balancer, c'était le moment de lui balancer une bonne dose de béatitude justement, quelque chose du genre « heureux les bisounours car ils hériteront la terre » ou bien « malheur à vous qui voulez faire plaisir à tout le monde en augmentant l'audimat ». Eh bien, au lieu de ça, le pauvre, notre secrétaire d'État en charge du numérique, s'est repris. Il a cherché à atténuer son propos. Il a dit « Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais quand même, l'amour, c'est pas mal. » C'est pas mal. Et d'un seul coup, peut-être parce que j'étais en train de commencer à y réfléchir, je me suis rendu compte que la problématique des béatitudes, on était en plein dedans. Et que les imprécations de Jésus... Malheur à vous, à la fin de l'évangile, enfin des béatitudes dans l'évangile de Luc, eh bien elles étaient plus que jamais d'actualité. Et pourtant, bien sûr, on n'est pas sûr que Jésus les ait dites, ces phrases qui commencent par « malheur à vous » ou, selon les traductions, « quel malheur pour vous ». Alors une petite information linguistique. En fait, c'est le mot « malheur », il a été ajouté dans les traductions de la Bible. À l'origine, alors qu'est-ce que c'est l'origine ? L'origine serait des paroles prononcées par Jésus, donc en araméen, un dialecte de l'hébreu, transcrites en grec, puisqu'on les a dans les évangiles en grec. Et donc, dans le texte grec, le mot c'est « why », qui transcrit « oi 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 ». Vous savez, le « oi 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 » juif qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose comme « oi 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 pour vous, les riches, oi 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 les moqueurs, les bien-vus de la société ». Ce n'est pas une malédiction, en aucun cas. C'est, à la rigueur, quelque chose qui leur annonce, comme l'a dit très bien un des jeunes quand on travaillait ce matin, qui leur annonce un risque, mais aussi la possibilité de s'en sortir. Voilà, ce que Jésus a vraiment dit, ben on ne le sait pas. En fait, on pense que les disciples avaient recueilli quelques-unes de ces paroles et que les rédacteurs des évangiles se sont servis ensuite de ce recueil. Ils ont pris dans ce recueil ce qui leur paraissait important et puis ils y ont ajouté d'autres choses en fonction de leurs propres besoins, des besoins de leur communauté. Parce que, comme je l'ai déjà dit souvent, y compris ici, je crois, s'il y a une chose dont mes quelques années de ministère m'ont persuadée, c'est que les rédacteurs des évangiles étaient d'abord les ministres de leur communauté et que quand ils écrivaient les évangiles, ils les écrivaient pour leur communauté et pour les aider. Pas seulement, bien sûr, mais d'abord pour ça. Et donc, on pense, on peut supposer, les spécialistes, j'ai cherché un petit peu en commençant à travailler ces textes, on peut supposer que les disciples avaient recueilli donc quelques-unes de ces paroles et que les premières sont authentiques et que les autres ont été ajoutées ou transformées justement par les rédacteurs des évangiles en fonction de la vie et des difficultés des communautés pour lesquelles ils écrivaient. Par exemple, justement, ces fameuses imprécations chez Luc à la fin du discours, eh bien, ça nous donne surtout une idée des difficultés de sa communauté, de tout ce qu'elle subissait, d'ironie, de mépris, de refus d'entraide, peut-être de la part des riches. Et puis, peut-être que ça ne nous fait pas de mal à nous d'entendre ces imprécations, parce que nous savons bien que dans une perspective économique mondiale, nous sommes tous ces personnes, elles s'adressent à nous, nous sommes tous des riches. Donc malheur à nous, non pas parce que nous sommes riches, mais parce que nous tenons notre consolation ou nous croyons la tenir, parce que nous sommes rassasiés, Malheur à nous, surtout quand nous nous trompons sur le véritable bonheur, sur la nature du bonheur. Mais revenons aux béatitudes, parce que ces imprécations, si on peut les appeler comme ça, si elles commencent par « oi 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 », c'est déjà moins fort, mais ces imprécations sont aussi là en opposition aux vraies béatitudes, celles qui commencent par « heureux, makarios ». Et si elles sont là, c'est parce que Luc a conscience de l'incroyable nouveauté du message. Il a conscience qu'il s'agit d'une radicale inversion des valeurs. Et quelquefois, on connaît tellement bien ces phrases qu'on risquerait de passer à côté de leur force. On pourrait passer à côté du message si on ne lisait, j'ai commencé par le faire, que la fin du texte chez Luc. Si on l'entendait que comme une expression de colère, même justifiée, contre le conformisme des mentalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on risquerait aussi de passer à côté du message si on y voyait seulement, et ça a été longtemps le cas, un appel à la résignation en vue d'une rémunération future, ultérieure, ultime, un peu comme si Jésus était en train